Guimard-Roch, je vous propose une promenade estivale pour aller flâner du côté du château de Ferrières jusqu'à l'hôtel Lambert sur une île à Paris avec Marie-Hélène et Guy de Rothschild, un couple romantique à souhait. Un simple coup de fil va bouleverser la vie de Guy de Rothschild. Un après-midi de l'automne 1975, Marie-Hélène m'appela au téléphone à la banque. « Te sens-tu encore jeune ?» me demanda-t-elle. Je ne pouvais deviner ce qui allait venir. À l'évidence, la question annonçait quelques bouleversements. Je répondis d'une voix calme que je me sentais toujours en bonne forme et j'attendis la suite des événements. « Assez jeune pour changer le cours de ton existence en l'espace de 2 heures ?»« Pourquoi pas ?» Ma voix était devenue blanche. Diable ! Je n'avais pas vu, semble-t-il, assez loin. C'est ainsi que j'appris que l'hôtel Lambert était à vendre et que Marie-Hélène, ayant étudié la question, pensait que nous devions nous lancer dans l'aventure. J'avais beau me sentir jeune, l'entreprise me semblait folle. Après des années d'efforts, je venais à peine de convaincre Marie-Hélène de la nécessité de fermer le château de Ferrières, qu'elle me proposait déjà un château dans Paris. Je connaissais l'hôtel Lambert, car Alexis de Rédé, un de nos amis les plus proches, en était le principal locataire. Il en occupait un étage, celui où se trouvaient les plus beaux salons et la fameuse galerie d'Hercule. Depuis presque 30 ans qu'il habitait là, c'est lui qui avait redonné vie à ce palais, s'occupant de la restauration, de la remise en état des peintures et de retrouver, sinon tous les éléments dispersés. Certains panneaux étaient au Louvre, tels ceux du cabinet de l'amour, du moins des panneaux ou tableaux d'époque qui les remplaceraient. Un palais pour un roi qui serait philosophe, avait écrit Voltaire qui l'avait habité. Mais je n'étais ni roi ni philosophe. Bien sûr, Chopin y avait souvent joué. Et peut-être telle ballade ou telle valse dédiée à mon arrière-grand-père ou à sa fille Charlotte, la fille unique de James, qui avait été l'une de ses meilleures élèves. Bien sûr, mes ancêtres avaient protégé Chopin, l'avaient reçu, l'avaient aidé à devenir célèbre. Tout cela ne faisait cependant pas un argument. Analyser les choses de très près. Elle s'était rendue compte que chaque appartement indépendant permettait de regrouper la famille et de faire cohabiter les différentes générations. David était jeune marié. Édouard et Philippe atteignaient l'âge adulte. En outre, ma mère venait de mourir quelques mois plus tôt et j'avais à placer dans un cadre qui en fut digne l'essentiel des collections réunies par mon grand-père Alphonse. Au moment où je fermais Ferrières, il n'était peut-être pas si fou de troquer, comme on dit au Monopoly, la rue de Courcelles et l'avenue Foch contre la rue Saint-Louis en Lille. L'affaire s'annonçait longue et difficile. La famille polonaise, qui était propriétaire depuis plus d'un siècle, était exigeante. Des amateurs étrangers étaient sur les rangs. Marie-Hélène prit en main la négociation et dosant habilement audace et menace, elle réussit. L'accord put être conclu. L'hôtel Lambert redevint propriété française. L'hôtel, on le sait, est un des joyaux de l'architecture classique, né des talents conjugués des artistes de Versailles, Le Vau, Le Brun, Le Sueur. L'édifice, bâti en carré autour d'une cour centrale, se prolonge au nord-est par une aile qui s'avance dans la pointe de l'île Saint-Louis comme la proue d'un navire. La Seine d'un côté, un jardin à la française de l'autre. Les pièces de réception situées dans les deux corps de bâtiments qui bordent ce jardin occupent deux étages. Si la galerie d'Hercule, ainsi nommée en raison des plafonds peints où Le Brun a représenté les travaux du héros et les salons attenants qui avaient été restaurés, le rez-de-chaussée restait à faire. Marie-Hélène s'attela à la tâche avec l'aide du décorateur italien Renzo Mongiardino. En un an, tous deux menèrent à bien avec les efforts qu'on imagine. Marie-Hélène, malade, venait parfois en ambulance surveiller les travaux. Une véritable résurrection du grand siècle. Ils ont réussi, je crois, comme James l'avait fait de l'hôtel de la Reine Hortense, une demeure poétique qui avait plutôt l'air du palais d'un artiste que de l'hôtel d'un millionnaire. La décoration des salons fut conçue en fonction des œuvres d'art qu'ils allaient recueillir, de telle façon que chaque élément des collections sembla reposer dans son écrin d'origine. Pendant la durée des travaux, Marie-Hélène me pria de ne pas me rendre rue Saint-Louis-en-Lille. La surprise devait être à la hauteur de l'attente.
Thank you. work for you. I'd even slave for you. I'd be a banker or a knave for you, whatever that is. And if that isn't love, it'll have to do. Until the real thing comes along, I'd gladly move the earth for you to prove my love to and its worth for you. If that isn't love, it will have to do,
gotta do,
until the real thing comes along. With all the words there at my command, I just can't make you understand. I'll always love you, darling, come with me. My heart is yours, what more can I say? You want me to rob a bank? Well, I won't do it. I'd sigh for you, yeah. I'd even cry for you, yeah. I'd tear the stars down from the skies for you. If that isn't love, well, skip it. It'll have to do. Until the real thing comes along.
Un jour enfin, sur une invitation officielle, je pénétrai dans le sanctuaire. Tout était préparé pour me ravir et m'étonner, jusqu'aux bougies allumées dans chaque candélabre. Quel éblouissement, quel enchantement de retrouver ces tableaux, ces objets de toujours dans ce cadre unique, nouveau et déjà familier. Quelle émotion aussi de voir revivre les tableaux de mon enfance à Ferrières, les collections de Bernard Palissy, de Majolic ou des mots de Limoges que ma mère avait conservés, mais disposés cette fois sur des panneaux de bois reproduisant les planchers de Versailles. Ou encore, quelques vieilles connaissances qui s'animaient entre les montants de leurs cadres. Les personnages des cuirs de Cordoue qui accompagnaient David dans son triomphe étaient sortis de leurs panneaux de Ferrières. Ils avaient repris leur place dans le cortège. Réunis, ils formaient maintenant une frise qui tournait tout autour d'un salon. Betty et l'astrologue... La plupart des auteurs et certains catalogues de Vermeer parlent de l'astronome. Chez nous, je ne sais pourquoi, on a toujours dit l'astrologue. Se retrouver face à face dans le salon de l'amour, prêts à deviser. Dans ma chambre, le sourire plein de santé de la femme à la rose éclatait à nouveau. Tous ces objets, ces êtres, oui, vraiment, commençaient une nouvelle existence. Betty, mon arrière-grand-mère, la nièce, puis la femme de James... La mère d'Alphonse, combien de vies avait-elle vécu, dans combien de pièces, dans combien de demeures familiales, à combien de mes ancêtres avait-elle adressé ce sourire un peu triste? Quel lien avais-je avec elle? Quel nouveau lien allions-nous tisser ensemble? Vie étrange des objets, il est bien vrai que la Betty de Ferrières ne ressemblait pas à celle de la rue de Courcelles, qui n'était pas la Betty du salon de l'amour, ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Une autre attitude, un autre regard, un autre demi-sourire.
She gets too hungry for dinner at 8. She likes the theater and never comes late. She never bothers with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. Doesn't like crap games with barons or earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. She likes the free, fresh wind in her hair. Life without care. She's broke and it's oak. Hates California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets too hungry to wait for dinner at eight. She loves the theater, but never comes late. She'd never bother with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. She'll have no crap games with Sharpies and froth, and she won't go to Harlem in Lincoln's or Ford's, and she won't dish the dirt with the rest of the broads. That's why the lady is a tramp. She loves the free, fresh wind in her hair, life without care. She's broke, but it's oak. Hates California, it's so cold and so damp. That's why the lady, that's why the lady, that's why the lady is a tramp.
Dans son livre « Contre bonne fortune », publié en 1983 chez Belfond, un chapitre entier est consacré à Marie-Hélène. Il était une femme. Elle est perfectionniste jusqu'à l'obsession. Cela va des petites choses de la vie quotidienne, la cuisine par exemple, jusqu'aux responsabilités qu'elle assume quand elle le peut. Peut-être parce qu'elle est plus souvent que d'autres victimes de la maladie, elle s'intéresse en priorité à ce qui touche à la médecine. Elle est membre du comité de la recherche médicale française et n'aime rien tant que de prendre en charge une soirée au bénéfice de ceux qui souffrent. Pour les hémophiles, par exemple, ou pour l'Institut Pasteur, elle a su organiser des manifestations qui sont restées dans les mémoires, mais qui surtout furent des réussites financières, au prix d'un effort ou d'une attention de chaque instant, où le moindre détail était décidé ou contrôlé par elle. Cette façon de se donner sans compter le « fais ce que tu fais » de mes rédactions d'enfants étonne, mais surtout porte ses fruits dans un monde de plus en plus négligent. C'est ainsi qu'en une seule soirée pour la restauration du château de Versailles, elle réussit à réunir une somme supérieure aux collectes de plusieurs années. L'art, après la médecine et son violon d'ingre, et si je puis dire, elle en joue bien, c'est peut-être la raison pour laquelle les responsables du futur musée du XIXe siècle, le musée d'Orsay, ont tenu à ce qu'elle fasse partie de leur conseil d'administration. On le voit. Avec elle, les choses ne sont donc jamais neutres, banales ou médiocres. Cela ne va pas sans malentendu. Ceux qui ne la connaissent que par les pages des magazines ou par les potins des commerces font d'elle une idée tout à fait fausse. Parce qu'elle est ce qu'elle est et qui elle est. La presse reprend éternellement le cliché de la reine de Paris. Cela ferait sourire si ce personnage n'était en réalité tout l'opposé de sa personne. Dans ce milieu artificiel, son naturel, sa spontanéité, sa vie, son mépris des conventions, son enthousiasme de petite fille, son ravissement devant les choses de la vie viennent déranger comme un pavé dans la mare les canards blasés. En vérité, elle déteste les gens superficiels, les arrivistes, les indiscrets, les envieux, les méchants. Bref, beaucoup trop de monde pour aimer plaire et vouloir être autre chose qu'elle-même. Il est vrai qu'on parle d'elle, qu'on commande ses faits et gestes, qu'on la discute. Elle séduit et elle choque. Elle captive et elle blesse. On l'admire, on la critique, on la jalouse. On l'imite. Elle enchante, elle subjugue, on l'envie. On l'aime ou on ne l'aime pas. En tout cas, elle secoue, elle remue, elle ébranle, elle bouleverse. On est pour, on est contre. J'ai une chance double. Je suis pour et je suis contre. Mais parfois aussi, comme le disait Sacha Guitry, tout contre.
In a sentimental mood, I can see the stars come through my room while your loving attitude is like a flame that lights. on the wings of every kiss drifts a melody so strange and sweet. In this sentimental bliss, you make my paradise complete. Rose petals seem to fall, it's all like a dream to call you mine. My heart's a lighter thing since you made this night a thing divine. In a sentimental mood, I'm within a world so heavenly, for I never dreamt that you'd be loving sentimental me.
Il y a 25 ans, au moment de prendre ma décision, je savais déjà tout. L'avenir avec elle m'apparaissait comme inondé de soleil. Ne pas oser saisir ce qu'il m'offrait, c'était renoncer à la plénitude, c'était renoncer à vivre. Ardente, vulnérable, naïve et habile à la fois, riante aux éclats ou plongée dans la détresse, Marie-Hélène était une enfant pleine de promesses, émouvante, débordante d'affectivité, incomplète, qui avait besoin d'être soutenue, fortifiée, qui avait tout à donner à son tour. Ce que quelqu'un avait appelé le mariage de l'eau et du feu. Ce mariage a duré 25 ans et dure encore. Il est vrai, ce portrait de Marie-Hélène m'apparaît parfois comme le portrait renversé de moi-même. Adepte d'une vie tranquille et même casanière entre bureau et golf, discipline et devoir, j'ai épousé la fantaisie, le désordre, l'imprévisible. Je vis avec une pendule, elle passe son temps à essayer de rattraper le temps. Elle me plonge dans les retards, l'agitation, la précipitation. J'aime la vie régulière, je dois faire face à une improvisation perpétuelle. J'aime les nuits qui sont faites pour dormir. Pour Marie-Hélène, la vie commence avec le crépuscule. Et si elle n'est pas sortie, elle trouve encore le moyen de discuter au téléphone aux quatre coins de la nuit. Je suis maniaque et presque obsessionnelle. Une cravate qui n'est pas à sa place devient une affaire d'État. Le désordre est le royaume de Marie-Hélène. Il n'est pas toujours facile avec cet enfant qui ouvre ses grands yeux verts sur la vie comme pour la première fois, avec cette Alice qui refuse de vivre ailleurs qu'au pays des merveilles, de s'adapter aux exigences de la vie quotidienne. Et parfois, moi, pondérée et calme, je me laisse entraîner et j'entre dans son jeu, ce monde de tumulte et d'orage, cette autre planète, l'univers Zuilène. Alors peuvent pleuvoir les insultes les plus ridicules, les plus bêtes ou les plus enfantines. Et puis, chacun retombe sur ses pattes. Je suis née, je ne l'ai jamais oubliée, avec de bonnes fées penchées sur mon berceau. J'ai essayé de répondre à mes chances et de faire de ma vie ce que j'avais à en faire. Je ne sais si j'y suis arrivée. Ce dont je remercie le ciel, c'est d'avoir pu cueillir, encore cette fois, cette autre chance, cette rencontre un jour avec la femme qui rendrait encore plus belle mon existence et riche ma vie, de la richesse du cœur. On le sait, la vie d'un homme et d'une femme n'est jamais une histoire simple. Quand les feux s'éteignent, ce ne sont plus les grandes lueurs qui illuminent, mais les braises qui continuent à vivre et leur chaleur réchauffe encore davantage. Plus encore qu'un chemin différent, ont changé pour moi le poids des jours et les couleurs du temps. Il y a eu de la lumière et des feux d'artifice, de la féerie et du rire, du soleil et des étoiles, des éclairs et des grondements aussi. Rien n'est jamais tout rose, mais depuis un quart de siècle, j'ai oublié vraiment ce qu'était la couleur du gris.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies of blue and the dreams you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Troubles melt like lemon drops way above the chimney tops. That's where you'll find me. Oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I?
Marie-France Guimard-Roche retrouvera avec vous les Rothschild pour danser avec eux tout l'été dans une série d'émissions enregistrées et réalisées par Émilie Glory dans les studios d'Urocas de Radio Grand Ciel.